Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinne L, un programme Maurice Clément Fèvre. Précédemment, l'artiste nous a dévoilé une nouvelle série sur les nus féminins à leur toilette lors de la dernière exposition des impressionnistes de 86. Allons de ce pas écouter ce qu'en dit l'auteur et la critique. Prenons notre palette et posons notre chevalet rue Lafitte à Paris. Bienvenue chez Hilaire Germain, Edgar Degas. À l'occasion de l'exhibition de sa suite de nus, Degas se garde de toute présentation indécente lors de ses instants d'intimité. Il déclare alors
« Mes femmes à moi sont des personnes simples et honnêtes. En voici une, elle se lave les pieds. C'est comme si vous regardiez par le trou de la serrure. »
Ou alors
« Ce qu'il me faut à moi, c'est exprimer la nature dans tout son caractère, le mouvement dans son exacte vérité, accentuer l'os et le muscle et la fermeté compacte des chairs. »
Degas, exigeant, confie aussi.
« Mon travail ne va pas plus loin que l'irréprochable dans la construction, quant au frisson de la peau, bagatelle. »
Manet avait déjà représenté une jeune fille à sa toilette, dans le tub. Émile Bernard en fera autant, dans « Nu au tub » et Picasso, en 1901, pour le tub « La chambre bleue ». Le critique Gustave Geffroy, en réponse au nu féminin d'Edgar, décrit les tableaux ainsi.
Degas n'a rien dissimulé de ses allures de batracien, du mûrissement de ses seins, de la lourdeur de ses parties basses, des flexions torses de ses jambes, de la longueur de ses bras, des apparitions stupéfiantes du ventre, des genoux et des pieds dans des raccourcis inattendus.
Les dissensions entre Degas et le baryton Jean-Baptiste Faure, qui lui a passé commande de quelques tableaux, ne sont pas terminées. Le peintre lui écrit en janvier 87 qu'il ne peut travailler pour lui que lors de ses loisirs. Il vend à Durand-Ruel La Convalescente, 800 francs, seule toile de l'année. En effet, Edgar s'est tourné aussi vers Théo Van Gogh, qui achète Femme accoudée près d'un vase bleu pour 4000 francs. Le marchand d'art organise une exposition à la galerie Bousseau-Valadon avec des femmes à leur toilette de Degas. Des danseuses sont exposées chez Durand-Ruel. En avril 88, l'artiste est présent à l'exposition internationale de Glasgow, avec Foyer de la danse à l'opéra. En juin, il vend à Théo Van Gogh une toile de jockey, course, pour 2000 francs, et en juillet, 4 chevaux de course, 1200 francs. Degas s'est replongé dans le milieu des courses et chevaux dont il fait des sculptures. En août, il part en cure à Cotteret après s'être arrêté à Pau et Lourdes. Il y retrouve ses amis Paul Lafont, ancien conservateur du musée de Pau, qui expose désormais son tableau, portrait dans un bureau au Nouvelle-Orléans, et cher fils, le collectionneur. Il en profite pour écrire à Bartholomé, à Mallarmé, auquel il avoue ne plus avoir l'adresse de Marie Cassatt. En octobre, cette dernière achète pour son frère Alexander un pastel de Degas, jockey. Durant l'hiver 88-89, Edgar se met à écrire des sonnets, 8 au total, sur les chanteuses, danseuses, chevaux. Ils sont dédiés à Mademoiselle Salanville, danseuse, à Rose Caron, chanteuse, à Marie Cassatt. Ils ne seront édités qu'en 1946. À Mademoiselle Salanville, il reconnaît être de ceux
qui s'entêtent à voir sur la femme qui fuit, incessante, fardée, arlequine, sévère, glisser la trace de leur âme passagère plus vive qu'une page admirable qu'on lit.
En décembre, le peintre refuse l'offre d'Octave Mau, critique, de participer au Salon des vins de Bruxelles. Odilon Redon écrit le 10 mars 89 dans son journal des louanges sur Degas.
Degas aurait droit à son nom inscrit au haut du temple. Respect ici, respect absolu.
À l'occasion de l'exposition internationale de Paris de 89, le peintre décline la proposition d'exposer au pavillon des Beaux-Arts. Il rejettera également celle de 1900. Il continue de vendre ses tableaux à Théo Van Gogh. Le 25 mai, a lieu la vente du collectionneur Henry Hill de Brighton chez Christie's Londres. Il avait été le premier acquéreur de cette toile dans un café ou l'absinthe. 6 Degas des années 70 sont en vente. La classe de danse part pour 56 guinées, 14 shillings. Edgar occupe son temps entre l'opéra, la peinture et la sculpture dont il façonne le tub en juin. À cette époque, sa sœur Marguerite Fèvre et sa famille partent s'établir à Buenos Aires. Son mari, architecte, pense y faire fortune.
une escapade bien organisée.
En août, le peintre retourne à Cotterêts. Il projette avec le portraitiste Giovanni Boldini un voyage en Espagne et au Maroc, avec un rendez-vous à Bayonne, mais sans arrêt dans la patrie du maître Léon Bonnat, dont Degas fit la connaissance en 1855. Edgar prépare le voyage dans les moindres détails, jusqu'aux visites, musées et corridas. Un point c'est tout. Cela a le nom d'agacer Boldini, plutôt bohème. Il arrive à Madrid le 8 septembre avec Giovanni et se rend au musée du Prado. Il visite l'Andalousie et se retrouve le 18 septembre au Maroc, à Tanger, où Delacroix est passé par ici. Malheureusement, les caractères de nos deux artistes étant empreints chacun de leur susceptibilité, la mésentente ne tarde pas à s'installer. 3 jours après le débarquement, ils se séparent. Cette même année, Huysmans sort un corpus, certain, dans lequel une partie est dédiée à Degas pour ses nus. En 1890, Degas demande conseil à Lepic concernant l'achat d'un chien pour Marie Cassatt.
C'est un chien jeune, tout jeune qu'il lui faut, pour qu'il l'aime. Une année bien occupée.
En janvier, il reçoit son atelier Théo Van Gogh et sa sœur. En mars, il s'engage auprès de Monet à participer à la souscription d'un montant de 100 francs pour l'achat de l'Olympia de Manet. Puis il déménage en avril 90 dans un nouvel appartement de 3 étages au 37 Victor Massé. Le premier étage est dédié à sa collection de tableaux. Le second niveau constitue son appartement orné de ses toiles préférées, telles que Corot, Ingres. Quant à l'atelier, il est situé au 3e étage. Au cours de ce mois, il est invité avec Marie Cassatt chez la famille de l'épouse décédée de Bartholomé, les Fleuries. Il se rend le 25 avril à l'école des Beaux-Arts où a débuté l'exposition japonaise. Son partenariat avec Théo Van Gogh continue toujours, puisqu'il lui vend en juin 2 études de femmes, 1000 francs chacune. L'été arrivant, il repart en cure à Cotterêts et revoit ses amis Lafont et Cherfils avant de partir pour Genève, rendre visite à Achille, son frère. Il poursuit son périple par la Bourgogne, où il a donné rendez-vous au sculpteur Bartholomé à Dijon. Tous deux se rendent à Diéné, en Côte d'Or, rencontrer des amis, Georges Janniot, peintre, graveur, illustrateur. Il en profite pour exécuter de mémoire une série de paysages monotypes en couleurs à son retour. La facture est plus abstraite, nébuleuse. Il est très difficile d'y reconnaître des panoramas bourguignons. Le style en est devenu flou et les formes imprécises. Comme nous l'avons déjà cité, Degas s'est toujours refusé de s'adonner au plein air, cher à ses confrères.
Une brutale disparition.
En octobre, Théo Van Gogh, malade, est hospitalisé au sanatorium dirigé par le docteur Blanche, père du peintre Jacques-Émile Blanche. Malheureusement, il meurt à Utrecht le 25 janvier 91, ce qui entraîne la fin de la collaboration entre Degas et la maison Bousseau-Valadon.
Le peintre et la femme.
Durant ces années 90, Degas continue ses études de danseuse et de femmes à leur toilette. Suzanne Valadon, peintre également, lui sert de modèle. Une grande amitié les lie tous les deux. Mais Degas n'a jamais été persuadé d'une authentique harmonie entre un artiste et une femme. Son côté puritain, rigoriste, l'a écarté de celle-ci dans sa vie privée. Et c'est avec une sorte d'inhumanité qu'il la représente aux soins de sa toilette ou dans les maisons closes. À la question de savoir pourquoi il ne s'est jamais marié, il répond.
J'avais trop peur, quand j'aurais fait quelques tableaux, d'entendre ma femme me dire
« C'est bien joli ce que tu as fait là !» Si Degas évite toute relation particulière avec une femme, il a quand même une vie sociale bien remplie. Dîner chez ses amis Roir, à Lévis, Cavé, sorti à l'opéra pour revoir les mêmes pièces, encouragement à Toulouse-Lautrec pour son art. En mars 92, il part de nouveau à Genève voir son frère Achille et descend par Grenoble, Valence, Avignon, rencontrer son ami Évariste de Valerme à Carpentras. Puis, le 13 avril, il se rend au chevet de Jeanne Manet, mourant, époux de Berthe Morisot. Degas commence à délaisser quasiment la peinture à l'huile et le foyer de la danse à l'opéra. En septembre 92, a lieu la première des 2 expositions personnelles à la galerie Durand-Ruel. Il s'agit de paysages au pastel. Dans une lettre du 4 décembre, il écrit
« J'ai fait chez Durand-Ruel une petite exposition qui m'a été plutôt favorable de 26 paysages imaginaires. »
le Mercure de France évoque
des sites chimériques recomposés d'imagination.
Ces monotypes de paysages ne sont plus que des aplats de couleurs. Toute construction élaborée, perspective a disparu, les personnages aussi. Le spectateur peut être déconcerté à la vue de ces reproductions. Georges Janiot raconte de quelle manière Degas, avec un pinceau ou ses doigts, trace son paysage sur la plaque huilée.
L'on voyait peu à peu surgir sur la surface du métal un vallon, un ciel, des maisons blanches, des arbres fruitiers aux noirs branchages avec bouleaux et chênes, des rivières pleines d'eau de la récente averse, des nuages rangés fuyant dans un ciel mouvementé au-dessus de la terre rouge et verte. Ces jolies choses naissent, sans l'apparence d'un effort, comme s'il avait devant lui le modèle. Mais qu'est-ce donc un monotype ?
Nous en avons déjà parlé à propos des œuvres sur les belles de jour. Rendons-nous dans l'antre du peintre, c'est-à-dire son atelier, pour le découvrir.
L'instant pratique, pratique.
Le monotype est un dessin réalisé à l'encre grasse imprimée. C'est une estampe qui s'exécute en deux temps. D'abord, il y a le croquis esquissé d'après nature. Pour Degas, il enregistrait la scène d'un coup d'œil et la retranscrivait dans son atelier. Elle est dessinée ensuite sur une plaque lisse de cuivre, de zinc ou de verre, recouverte d'encre ou d'huile colorée, appliquée au pinceau, brosse ou tampon. Ensuite, intervient le tirage unique sur papier humide, coloré ou non, gardé dans un carton à dessin. Un second tirage, plus pâle, peut être effectué, un troisième aussi. Le résultat final peut donner quelques surprises quant au contraste et suivant l'adresse de l'artiste, puisqu'ensuite, on peut effacer, frotter, gratter sur la plaque. Le peintre est en mesure de retoucher ses épreuves de gouache ou de pastel, comme le fait Degas. Il réalise plus de 200 monotypes. Edgar en a eu l'idée chez un imprimeur au tirage de gravure. Certaines danseuses, scènes de café-concert, femmes à leur toilette, sont des pastels sur monotypes. Pour d'autres, ce sont les deuxièmes épreuves qui acceptent le pastel. Lors des scènes de maison close, le premier tirage laisse la place à l'encre noire. Degas abandonne le monotype entre 1885 et 90 pour le reprendre avec le thème des paysages. Les années passant, la facture du peintre change. À la fin des années 90, les traits sont plus marqués, les couleurs plus intenses. Les danseuses sont saisies dans toutes les poses, en attente, mais elles ne dansent plus. Après 1900, la couleur est toujours plus forte, les lignes aussi. Les corps changent, sont plus lourds, moins graciles. D'ailleurs, les journalistes ignoreront les dernières œuvres de Degas, à son désespoir.
Des chagrins en vue.
Au cours de l'année 93, Degas sert de témoin par deux fois au mariage des filles de Paul Durand-Ruel en mai et septembre. À la fin août, il rend visite à sa sœur Thérèse en Suisse, car son mari Edmondo Morbilli est très malade. Les mauvaises nouvelles se succédant, Degas écrit en octobre à une femme non identifiée au sujet du décès de son frère Achille.
Il s'était marié il y a 12 ans en Amérique et vivait en Suisse depuis lors. Mais en 1889, il avait eu une attaque légère. Deux ans après, une autre qu'il avait laissée à moitié paralysée, et voilà deux ans qu'il était couché, perdant la parole et peut-être une partie de ses idées. Il vient de mourir ici, après 15 jours de retour.
Degas insiste auprès de Durand-Ruel pour organiser une exposition de Gauguin le 4 novembre. À cette occasion, il acquiert la Lune et la Terre. En janvier 1994, il achète « Jour de Dieu » de Gauguin. Notre voyage se clôt pour aujourd'hui sur les nouvelles productions de Degas. Je vous invite à retrouver « Voyage en terre de couleurs » sur cette même antenne prochainement, vers de pénibles années pour l'artiste.